Bonjour, bonjour, bienvenue à Radio Linguistica. Nous avons le plaisir d'accueillir Angélique Bouin, correspondante permanente de Radio France à Bruxelles. Bonjour, Madame Bouin.
Bonjour, bonjour à tous.
Merci infiniment d'avoir accepté notre invitation. Sachant que vous êtes fort prise par toute cette actualité bruxelloise, ça fait, si j'ai bien compris, vous êtes arrivée il n'y a pas si longtemps que ça à Bruxelles. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu ce que vous faites, quelles sont les fonctions de ces correspondants permanents à Bruxelles, dont on dit ils sont en tout petit nombre, et un petit peu quelle est cette profession?
Alors écoutez, moi en fait, je suis arrivée à Bruxelles fin 2018, donc pour couvrir l'actualité à la fois du Benelux et des institutions. Donc moi, je suis envoyée spéciale permanente ici, donc en poste à Bruxelles pour Radio France. Radio France qui est donc le groupe audiovisuel public en France, dans lequel il y a plusieurs radios, France Inter, qui est la radio généraliste, France Info, qui est une radio d'info continue, France Culture, qui est une radio généraliste également, mais plus ouverte, je dirais, plus que France Inter, en tout cas sur l'actualité internationale et culturelle. Et puis Radio France aussi, c'est un réseau de plus de 20 radios locales un peu partout en France, alors pour lesquelles je travaille un peu moins, évidemment, sauf peut-être celles qui sont dans des régions frontalières. Donc moi, mon travail ici consiste à couvrir l'actualité, évidemment, des institutions, mais aussi des trois pays du Benelux. Reste que l'actualité bruxelloise est telle, et puis en particulier depuis 2 ans, enfin ça n'arrête jamais, mais il faut dire que l'actualité est quand même particulièrement riche. Donc je dirais qu'à peu près 80% des interventions que je fais de Bruxelles, en direct ou en différé, sont plutôt sur l'actualité de l'Union européenne. Je suis évidemment pas seule, car il y a beaucoup de travail ici. Je suis seule, je dirais, en poste comme salariée permanente de Radio France, mais on travaille ici en équipe avec des journalistes qui sont des journalistes qui travaillent pour RFI, Radio France Internationale. Et là, on est quatre avec Pierre Benazet, Johanna Hochstein, Lakhdi Milota, Jérémy Audouard qui nous a rejoints. Et donc, quand moi, je suis sur un sujet particulier, comme par exemple le sommet européen qui s'ouvre demain et qui a une actualité belge, par exemple, sur la constitution du gouvernement qui est attendue d'une heure à l'autre, eh bien, moi, je vais faire plutôt les institutions et un des pigistes avec lesquels je travaille va couvrir l'actualité belge ou l'inverse selon les sujets. Et donc, moi, mon travail consiste chaque matin à faire une proposition assez tôt, je dirais avant 9 h, aux rédactions parisiennes de France Inter, France Info, France Culture, par l'intermédiaire des représentants à Radio France de ce qu'on appelle la rédaction internationale. Donc, c'est une rédaction constituée qui couvre l'actualité internationale. Je fais des propositions sur ce qui va arriver dans la journée, ce qui est prévisible. Et puis ensuite, on décide ensemble, avec les rédactions, de ce qui est prioritaire et de la forme que ça va prendre. Je donnais l'exemple de ce matin. On sait que la Commission publie son rapport annuel, son premier d'ailleurs, sur l'état de l'Union. C'est une proposition évidemment que j'ai faite ce matin. Donc la réponse est tombée il y a quelques minutes. Je vais faire une intervention dans le 18 h de France Culture, dans le 17 h de France Info et entre 18 h et 19 h, selon le souhait du présentateur sur France Inter en soirée. Et puis pour demain matin, je prépare un avant-sujet qui sera diffusé là. Dans l'une des matinales ou dans les matinales de ces radios sur les enjeux de ce Conseil européen. Donc voilà, c'est très vaste et je suis moi arrivée pour répondre à votre question début 2019. Donc.
Je ne vous entends plus.
Oui, je disais que j'avais. Je disais que j'étais arrivée début 2019 ici en poste et j'ai succédé au correspondant de Radio France qui était ici de longues années, qui était Monsieur Quentin Dickens. De longues
Qu'on a
années, moi
accueilli.
dans. Pardon?
Qu'on a accueilli en début d'année, mais il ne nous a pas du tout parlé radio. Il a
Ah,
parlé autre
très bien.
chose.
Donc voilà, donc moi j'ai donc succédé à Quentin sur ce poste qui est passionnant et qui est un poste pour le coup pour lequel moi je suis nommée pour 2 ans renouvelables. Donc je vais faire terminer mes 2 ans à la fin de l'année et je suis renouvelée pour 2 ans, donc jusque 2023, si j'ai bien suivi.
Votre poste finalement revient à décoder l'Europe, l'actualité. Alors il y a des sommets européens, il y a des discours sur l'état de l'Union, il y a des réunions des commissions au Parlement européen, puis ça se passe aussi à Strasbourg. On a souvent l'impression quand on parle avec les journalistes en poste ici que décoder l'Europe pour une audience spécifique, pour des gens réels, ça reste quand même un sacré défi. Est-ce que vous pouvez nous expliquer quels sont au quotidien, vous venez d'évoquer la succession des émissions, des présentations, des événements, mais au fond, quelles sont les difficultés que vous rencontrez pour être présent un peu sur tous les fronts, avec, si j'ai bien compris, un nombre limité de collaborateurs?
Écoutez, décoder l'Europe, c'est sûr que ce n'est pas simple. Et puis en plus, c'est vrai qu'on va se dire les choses, ce n'est pas beaucoup appris dans les écoles de journalisme en France. Donc en fait, on travaille évidemment sur de nombreuses matières. On a des intervenants de très haut niveau sur les affaires étrangères, la diplomatie, l'économie, etc. Mais il y a finalement, enfin, en tout cas moi qui ai fait une école de journalisme à Lille, je n'ai pas le souvenir d'avoir eu un cours sur la façon dont fonctionnait l'Union européenne. Donc on est assez démunis, je dirais, dans les rédactions. Et s'il n'y a pas un travail un peu personnel pour comprendre le fonctionnement de l'Union européenne, on est vite perdu. Alors, il existe d'ailleurs, sous l'impulsion de Quentin Dickinson, il existe un programme d'études qui est rattaché à l'ENA, l'École nationale d'administration française, qui s'appelle le cycle des hautes études européennes, qui est proposé à toutes sortes de professions en France qui se destinent à travailler avec l'Union européenne. Alors, on trouve dans les différentes promos des militaires, des diplomates, et il y a chaque année ou 4 journalistes qui suivent ce cycle. Et j'ai eu la chance de le suivre l'année qui a précédé mon arrivée ici pour pouvoir comprendre un petit peu comment fonctionne l'Europe. Parce que même en ayant fait d'ailleurs ce travail d'étude qui était à peu près de 2 jours par mois de décryptage avec des experts fonctionnement de l'Union, mais en ayant suivi ce cycle, quand on arrive ici, je dois dire que c'est quand même une claque parce que le fonctionnement, le parcours législatif, les différentes institutions, les subtilités de ce fonctionnement européen sont quand même difficiles à décoder. Et à la fois, on est quand même dans un endroit, moi c'est ce qui m'a frappé ici, où il y a un nombre d'attachés de presse, de responsables de communication, de sites, je dirais qui sont extrêmement bien faits, de très haut niveau, on parle assez facilement vraiment à des tas de gens qui connaissent bien leur domaine et en même temps je trouve qu'on est assez noyé par toute cette communication. Et quand il s'agit par exemple pour un journaliste de radio comme moi d'être capable de dire à Paris voilà c'est aujourd'hui qu'il faut parler de cet accord-là sur telle loi parce que c'est aujourd'hui qu'en trilogue ça va se décider et qu'on est à peu près certain que concrètement ce sera dans la vie des gens d'ici quelques mois, mais finalement le trilogue étant une des choses les moins transparentes ici à Bruxelles, sur lequel on communique le moins, donc il faut courir à la pêche aux infos, etc. On a beaucoup de mal, je dirais, à décoder. Et parallèlement, si je reprends cet exemple d'une loi qui serait intéressante que je suis, dès qu'elle est passée, dès qu'elle est votée au Parlement, en revanche, on a plein d'eurodéputés qui tweetent, qui envoient des communiqués de presse. Donc à Paris, on m'appelle en disant oui, ça c'est bon, c'est voté. Ben non, il y a que. C'est la position du Parlement, on attend encore la position des États, et puis, ou alors la communication de la Commission qui est présentée et qu'on présente évidemment comme un moment clé important, mais quand on sait derrière, et je pense par exemple à ce pacte sur l'immigration, quand on sait derrière que 24 heures après, il y a une partie des pays de l'Union qui disent no way, la proposition de la Commission, elle ne passera jamais, eh bien, c'est très compliqué pour nos journalistes de faire un point sur l'antenne à Paris en disant voilà. Voilà ce qu'il y a dans les tuyaux, c'est qu'une proposition et il va encore couler sous les ponts beaucoup, beaucoup d'eau avant qu'elle soit très concrètement adoptée et mise en œuvre. Et ça, je dirais que ce temps de la législation européenne, c'est ça qui est le plus difficile, moi, je trouve, à titre personnel, je dirais, à raconter cette histoire européenne. Elle est difficile à raconter sur nos antennes parce que, d'abord, elle passionne pas les foules sur nos antennes, à tort, parce que j'ai vu qu'une étude, un Eurobaromètre en 2017, disait que justement 3 Français sur 4 se disaient assez mal informés sur l'Union européenne. Ça veut bien dire qu'il y a un intérêt. Mais nous, journalistes, on a sans doute une responsabilité ou nos chaînes, en laissant parfois pas assez de temps ou assez de place pour expliquer tout ça. Alors je mets un bémol là-dessus parce qu'honnêtement, Radio France, et c'est ça vraiment, je dois souligner que notre média là-dessus est absolument exemplaire. C'est vraiment là où vous entendrez, entre les 3 chaînes, le plus de chroniques consacrées à l'Europe et avec aussi des gens qui sont à Paris, qui suivent l'actualité européenne à Paris. Je pense à Stéphane Leneuf ou Delphine Simon qui ont fait ce cycle des hautes études de l'ENA et qui, tout en étant en poste à Paris, nous racontent l'Europe de façon hebdomadaire dans des chroniques. On a un service Europe au sein de la rédaction internationale qui est très fournie, donc je ne suis absolument pas seule. Il y a Louise Baudet, Isabelle Labéry, Marie-Pierre Véraud, ce sont des journalistes qui suivent les conseils européens, qui viennent à Bruxelles régulièrement, qui vont à Strasbourg, qui suivent au quotidien ce qui se passe. Donc en fait, on est beaucoup plus nombreux. Mais c'est vrai que d'une manière générale, dans les médias français, si on compare avec d'autres pays, je pense qu'on est quand même très en dessous de ce qu'on devrait faire.
Moi, j'ai bien enregistré ce que vous me dites. Quelque part, vous êtes d'accord avec moi que l'Europe reste un hobby, puisqu'il faut se former quand on est journaliste après ses études de journaliste pour les questions européennes. J'entends aussi que finalement, ce cycle, vous allez peut-être réagir, ce que, ce cycle législatif européen, il semble complexe, mais peut-être parce qu'il est trop transparent. Après tout, si on voit que la Commission propose, et c'est un moment assez solennel, puisqu'on a déjà pas mal travaillé en amont. Et puis après, il y a le Parlement qui réagit et le Conseil à son tour. Quelque part, la boîte est trop ouverte. J'aurais presque tendance à dire, c'est peut-être une question. En tout cas, il est très difficile d'identifier le moment significatif. Et vous soulignez les efforts qui sont faits côté radio. D'ailleurs, j'aimerais bien avoir le lien vers le service européen de Radio France. Je ne l'ai pas trouvé, si vous l'avez sur Internet. Mais on a l'impression que, par contre, la télé, à la télévision, l'Europe n'est pas là. Quasiment pas.
Alors c'est vrai que c'est un reproche qui est très récurrent et qui est fait très régulièrement à la télévision et notamment j'ai vu qu'il y avait eu une grosse tribune en février dernier, il me semble, hein, dans la presse écrite dans Le Monde, signée par pas mal d'eurodéputés notamment qui effectivement regrettaient que l'audiovisuel public en général avait fait trop peu. Il prenait l'exemple du vote d'investiture d'Ursula von der Leyen devant le Parlement européen, qui a fait l'objet d'une brève dans le journal du soir de France 2. Bon, c'est vrai que c'est un sujet, c'est vrai qu'aujourd'hui, de nombreux responsables s'en sont émus. J'ai vu récemment que le nouveau secrétaire d'État aux Affaires européennes, Clément Beaune, s'en était ému et demandait aussi, je dirais, à l'audiovisuel public là-dessus de rendre des comptes. Moi, j'entends, hein, ces critiques. Elles sont. Je n'ai pas question de taper sur mes confrères de la télévision, mais de fait, il y a moins de présence dans les journaux télé, on est d'accord. Mais si on va par exemple sur Arte, qui a un correspondant en permanent ici, il y a quand même beaucoup d'Europe, hein, c'est Lionel Julien. Bah, il faut sans doute améliorer ça sur, je dirais, les journaux télévisés quotidiens, mais en même temps, regardez la part de l'actualité internationale tout court dans ces journaux-là, elle est absolument ridicule. C'est au-delà de l'Europe. Je ne crois pas que ce soit un désintérêt pour l'Europe, c'est un désintérêt dans les journaux télévisés qui furent à l'époque, une certaine époque, les grands maîtres. Pour l'actualité internationale. Donc ça renvoie à un autre sujet, je dirais, qui est une ligne éditoriale globale sur l'information à France Télé. Bon, néanmoins, c'est vrai qu'il y a un gros débat actuellement, mais il ne faut pas que ce débat, je dirais, occulte le fait quand même que, effectivement, il y a Arte, il y a RFI, il y a quand même Europe 1 dans l'audiovisuel en France qui est très présent, qui est beaucoup d'Europe avec Isabelle Horry. Il y a beaucoup de presse écrite. Il faut aussi voir que Libération, Les Échos, Le Figaro, Le Monde, ici, ont des correspondants. Voilà, je veux dire, si on est intéressé par l'Europe et qu'on est, je dirais, citoyen français, on ne manque quand même pas. Je veux dire, le JT, de toute façon, pas l'endroit où on s'informe aujourd'hui. Enfin, ou alors, moi, j'y comprends rien. d'une manière générale. Voilà. Donc, qu'il y ait un sujet particulier sur la place de l'information internationale sur les télés françaises, c'est vrai. Mais il ne faut pas non plus, je trouve, tout voir en noir. Voilà, ça, j'avais envie un petit peu de défendre ma profession sur le sujet.
Et vous avez raison, c'est tout à fait légitime de définir, enfin de défendre son boulot. Mais au fond, par exemple, en France, puisqu'on parle d'un espace que nous avons quelque part en commun, vous et moi, qui a dit que le plan de relance français, hein, pour le chômage, les entreprises, tout ça, était lié au plan de relance européen? Je veux dire, c'était quand même pas d'une complexité. Qui l'a dit? Je me dis notamment à la télévision. Comment est-ce que on lutte contre la fragmentation des espaces? On a l'impression qu'on est dans les frontières. Alors il y a un gouvernement, il fait un plan de relance, et Dieu merci. Mais l'autre horizon, qui est qu'à Bruxelles, on a franchi un cap, on a vraiment explosé la boîte et qu'on s'est lancé dans un emprunt massif. Le lien n'est pas fait. Je crois peut-être Ouest-France en a parlé.
Alors là où je vous rejoins aussi, c'est et je renvoie un petit peu la balle, même si lors du premier point de presse sur le plan de relance, il y avait Clément Beaune qui est venu en parler, donc qui a fait son boulot. Néanmoins, j'ai pas eu l'impression dans les interventions publiques dans les médias des hommes politiques qui ont présenté, débattu de ce plan de relance, eux-mêmes n'en font pas. Je dirais la publicité. C'est-à-dire qu'il ne faut pas oublier aussi que il y a une responsabilité aussi, moi je trouve, de notre classe politique pour qui l'Europe n'est pas, je dirais, au cœur des débats politiques en France. Enfin, c'est quand même toujours assez frappant de voir qu'on a l'impression qu'un homme politique qui vient faire une carrière comme eurodéputé sort de la sphère politique française et du petit monde politico-médiatique parisien. Et d'ailleurs, c'est terrible pour eux parce qu'ils arrivent ils ont parfois eu une carrière nationale où ils étaient en plateau tout le temps sur ces chaînes d'info continue. Dès lors qu'ils sont élus eurodéputés, ils sortent des radars. Alors que c'est des gens très investis qui, pour la plupart, qui bossent énormément leur dossier, qui ont une vraie analyse et un regard et du recul sur l'actualité économique internationale, européenne, ou sur les équilibres politiques au sein de l'Union européenne. Bon, ben voilà, donc il y a quand même effectivement une responsabilité des médias, et c'est vrai que sur cette particularité du plan de relance, ça a été peu dit. Alors, néanmoins, je vois France Info qui est une. Enfin, par exemple, France Info, le jour même, à la présentation du plan de relance ce matin, à 14h40, j'étais en direct sur 2 minutes pour expliquer justement que 40% de plan serait financé par le plan de relance européen. Donc ça ne veut pas dire que ça n'a pas été fait. Effectivement, ce n'est pas visible, vous avez raison, parce que c'est assez confidentiel et qu'il n'y a pas une couverture générale, comme je crois apparemment le font beaucoup plus, pour remettre dans le contexte ce plan de relance, dans le contexte européen. Vous avez raison. Néanmoins, je pense quand même aussi que nos dirigeants n'en ont pas fait état sans doute assez, quoi. C'est-à-dire qu'à un moment, les journalistes, on doit prendre du recul, couvrir les choses de façon large, effectivement dire la vérité aux gens, c'est-à-dire que c'est 100 milliards, il y en a 40 qui seront financés par un grand emprunt commun et qu'a priori, la volonté française, c'est que cet grand emprunt soit remboursé sur 30 ans par des ressources propres, de façon à ce que ça ne sorte pas de la poche des citoyens, mais plutôt de la poche des GAFA ou des producteurs de produits chinois non conformes à nos règles environnementales, avec une taxe aux frontières carbone, tout ça est dans les tuyaux. Est-ce que ça a été dit et redit et clairement défendu sur les plateaux télé quand les pro-majorités sont venus défendre ce plan de relance? J'en suis pas si sûre. Néanmoins, vous avez raison, il y a une responsabilité de la presse, mais il y a aussi une responsabilité de la classe politique française qui n'est pas, qui intègre assez peu, regardez dans les campagnes électorales, etc., le poids de l'Europe, le poids des décisions prises à Bruxelles dans la vie quotidienne des Français. Donc je dirais que c'est un peu le serpent qui se mord la queue, mais il y a une responsabilité collective, hein, à mon sens.
Oui, et on a le sentiment qu'effectivement les espaces politiques restent fragmentés et c'est quand même grave. Par ailleurs, j'imagine que ça serait tout de même un facteur de à la fois de confiance et de réconciliation. Si on explique qu'il y a un débat, il y a des dissensus, il y a des conflits dans Bruxelles, et puis on prend une décision massive, et après ça, les États membres qui ont participé complètement à cette décision la mettent en œuvre. Et ça, on l'a pas. On l'a pas, et je crois qu'on dit souvent qu'il y a un défaut d'incarnation de l'Europe. Et ça vient de très loin. Je ne parle pas aujourd'hui, c'est une vieille affaire.
Ah ben ça, vous avez, ça, je vais même vous donner un exemple clair. Il y a effectivement un défaut d'incarnation de l'Europe, même s'il y a eu quand même, je dirais, des efforts. C'est-à-dire qu'on dit beaucoup plus volontiers aujourd'hui dans les médias qu'il y a, je trouve, ne serait-ce qu'une dizaine d'années, que Ursula von der Leyen est la patronne de l'Europe ou son prédécesseur. Bon, il y a cette idée-là. Néanmoins, moi, j'ai une anecdote qui est amusante. On a des chroniques régulières. Sur la grande émission internationale de France Inter, Un jour dans le monde, présentée par Fabienne Synthès. Et chaque lundi, le correspondant qui fait le même travail que moi aux États-Unis fait une chronique qui s'appelle Le monde selon Trump. Et moi, j'ai une chronique Europe. Alors en ce moment, elle a été suspendue justement pour faire de l'actualité américaine. Mais la productrice de l'émission me disait, ce serait bien de faire quelque chose, Le monde selon von der Leyen. Mais non. Parce que von der Leyen n'est pas Donald Trump, elle ne dirige pas l'Europe. Donc en fait, ça se heurte effectivement à un problème d'incarnation. Mais comment voulez-vous incarner une Union européenne qui, de toute façon, est un grand compromis entre 27 nations, avec le poids, après l'importance de la Commission et l'importance du Parlement qui représente les citoyens. En fait, c'est une équation extrêmement complexe, vous avez raison, et qui est un souci d'incarnation, c'est évident. Néanmoins, je trouve que là-dessus, il y a quand même des progrès. Je dirais que la façon dont aujourd'hui Ursula von der Leyen s'est saisie, par exemple, des réseaux sociaux avec des petites vidéos en trois langues pour incarner justement la position de la Commission, avec elle s'est adaptée à ces formes courtes qui sont lues par les citoyens sur leur téléphone quand ils prennent le métro. Bon, il y a quand même, on sent une volonté, en tout cas en termes de communication. Alors, ça peut être critiqué ou pas par des journalistes que nous sommes. Néanmoins, ça existe. Et en termes de communication pure, je trouve que c'est tout de même très intéressant qu'elle-même essaie d'incarner ça en plusieurs langues, avec des vidéos, etc. Voilà. Après, ça s'appelle de la communication. Donc moi, comme journaliste, je sors toujours les warnings pour essayer de la décrire, mais c'est mon travail. Je dirais que communication sur cette incarnation européenne, j'ai plutôt l'impression qu'il y a des progrès qui ont été réalisés.
Oui, beaucoup d'efforts ont été faits. Est-ce que, par exemple, c'est une question, vous vous intéressez au débat qui se passe à l'Assemblée nationale sur les questions européennes?
En
Parce que
France,
ça, c'est aussi en France, par exemple. Enfin, je cite la France.
oui, s'y intéresser, oui, et je vais vers un moment, c'est aussi s'y intéresser, oui, mais les suivre en direct, les écouter, ou c'est impossible. Enfin, on va se dire les choses. Il y a une telle actualité ici aussi qu'on est un sujet, je dirais, de temps. C'est que moi, je suis extrêmement sollicité sur des sujets très divers. Rien que pour aujourd'hui, j'ai trois commandes, donc je ne sais pas encore comment je vais les organiser, mais je dois faire un sujet sur la polémique autour du Parlement de Strasbourg et la sortie d'Emmanuel Macron qui est fou furieux qu'il n'y ait pas que les eurodéputés ne soient pas la semaine prochaine, le Conseil européen de demain et le rapport sur l'état de droit qui sort à la mi-journée. Donc ça me laisse peu de temps pour aller écouter des débats, je dirais, à l'Assemblée nationale. Enfin, il y a un moment où c'est. Enfin,
Non, mais
après, il y a un intérêt, évidemment. Mais après tout, quelle influence avoir là-dessus, c'est entre les mains, je dirais, des politiques français.
tout à fait. Non, je disais vous, pardonnez-moi, je ne pensais pas à vous qui êtes à
Ah
Bruxelles,
oui,
mais vos
d'accord. Donc, ah oui,
confrères.
les médias français. Ah oui, ah ben oui,
Voilà.
ça, oui, mais on revient sur ce que je vous disais, sur ce qu'on se disait aussi tout à l'heure. Moi, je ne vais pas nier, bien au contraire, qu'il y a un souci, je dirais, de couverture des affaires européennes. Très généralement par les médias en France, vous avez complètement raison. Et pour le coup, il suffit de comparer la présence allemande, médiatique allemande ici à Bruxelles, à la présence médiatique française, c'est pas la même chose. Numériquement, ça n'a rien à voir. Donc oui, il y a un sujet d'intérêt des médias français pour l'Europe qui est net et qui rejoint aussi un sujet d'intérêt de la classe politique française pour l'Europe. Voilà, ça, c'est un constat qu'on partage totalement.
Alors, je voulais passer à une autre dimension, parce que très souvent, on dit, hein, que les eurocrates ou les technocrates de Bruxelles, comme si Bruxelles avait le monopole de la technocratie, parlent une langue opaque, difficile, qui est extrêmement malaisé à exploiter pour un journaliste parce qu'il faut décoder le discours qui est tenu. Les explications ne sont pas pédagogiques et notamment elles sont en anglais. Je parle là d'une déclaration, par exemple, de l'Association européenne des journalistes, toute récente, qui a écrit à Madame von der Leyen en disant chère présidente de la Commission européenne, vous ne vous occupez pas assez du français. Ce qui est sympathique parce que, bon, parmi beaucoup d'autres choses, il y a un effort de multilinguisme, de production de documents systématiquement au moins en trois langues, mais la demande est énorme. Nous sommes 470 millions d'habitants, nous avons 23-24 langues, mais il y a aussi une opacité du discours. Comment vous réglez ça, vous, qui êtes là sur place pour décoder?
Alors, c'est vrai que c'est un sujet. Il y a, en fait, je dirais qu'il y a deux sujets dans votre question. Il y a le sujet de la place du français, qui, probablement, et moi, mes confrères m'ont confirmé, est en nette baisse ici. Et même si, effectivement, les discours, les grands documents sont traduits, ils sont d'abord proposés en anglais. Ça, c'est clair. C'est vrai que je vois récemment le discours sur l'état de l'Union. Ça a beaucoup choqué pas mal de confrères que la présidente ne s'exprime en français, je dirais, que sur quelques minutes en début et en fin, enfin, de façon extrêmement brève. Et puis, la plupart du discours a été en anglais. Ça reste une langue officielle. Il y a des tas de diplomates, de journalistes qui, quand ils sont nommés ici, ben moi je vois avec certains confrères des pays de l'Est, font l'effort d'apprendre le français, puis ils arrivent parce que c'est une langue de travail ici, puis ils arrivent ici, ils se rendent compte que finalement, avec l'anglais, ça suffit. Et donc, c'est d'autant plus stupide, et en tout cas, je me fais le porte-voix de ceux qui défendent que les Britanniques s'en vont. Bon, c'est un vrai sujet, c'est un vrai débat. Moi, j'entends tout à fait que ce soit un problème. Après, à titre complètement, et c'est l'autre sujet, à titre complètement personnel, moi je travaille pour la radio, donc effectivement, très très concrètement, quand la présidente ne fait que le début de ses propos en français, je ne peux diffuser qu'un extrait qui n'est pas le plus intéressant, ou alors il faut que je fasse de la traduction et on essaie d'éviter. Je le fais, évidemment. Je diffuse du von der Leyen en anglais très régulièrement. Mais c'est vrai que quand elle prend l'effort de faire un peu de français, c'est quand même beaucoup plus facile. Et donc, je dirais que c'est plus facile de parler de l'Europe avec des gens ici que je peux faire en français et de les diffuser sur ma chaîne plutôt que de l'anglais. Et puis, il y a un autre sujet qui est effectivement que cet anglais, je dirais, de Bruxelles, hein, dont on m'avait beaucoup parlé avant mon arrivée, bon, qui est moins pire que ce que j'imaginais. C'est vrai que parfois, tous ces acronymes ou ces espèces de mots dont on entend parler, enfin, qu'on découvre ici, sont pas d'une grande facilité quand on arrive. Bon, je dois dire qu'au bout de quelques mois, tout va bien. Mais il y a parfois des curiosités. Je dois dire que, il y a des curiosités récemment sur une conférence de presse de l'Agence européenne des médicaments. Le scientifique interrogé parlait de regulators, donc les régulateurs, les organismes qui réglementent. Enfin, moi, j'ai essayé de chercher une traduction, donc j'ai fini par dire les organismes qui réglementent. Mais bon, c'est un terme visiblement qui est, ce que j'ai compris après, hein, très utilisé dans le cours de ces questions de vaccins, de Covid, etc., mais qui renvoie sans doute, mais j'avoue, j'ai pas pu le vérifier très précisément à un organisme de régulation de la mise sur le marché des médicaments. Est-ce que ça renvoyait justement à l'Agence européenne des médicaments? Je ne le sais pas. Mais il semblait acquis pour tout le monde qu'en disant regulators, ça réglait le problème et ça renvoyait dans la tête de tous ceux qui étaient là un organisme bien précis. Moi, je n'ai pas eu la réponse à ça. Il y en a plein d'autres exemples comme ça, une espèce d'évidence avec des mots anglais ici, où tout le monde dans la bulle c'est parfaitement ce vers quoi ça renvoie. Enfin, sauf que ce n'est pas le cas pour le commun des mortels, petit temps. Et puis alors, nous, journalistes, il faut commencer pendant 3 premiers mois, ce que j'ai fait, apprendre par cœur des acronymes, des mots anglais qui signifient pas précisément ce qu'on croit, mais que ici tout le monde comprend. Il y a la difficulté aussi de l'anglais parlé par des gens dont c'est pas la langue natale, alors d'où les premiers, mais avec des accents qui font que parfois c'est extrêmement compliqué. Donc c'est effectivement un vrai sujet qui agite régulièrement la bulle journalistique ici, parce que quand même l'idée qu'il y ait plusieurs langues officielles fait qu'on va travailler plusieurs langues. Et ramener tout à une seule appauvrit quand même la langue et la précision des mots, qui est extrêmement importante en plus quand on fait du journalisme radio, parce que autant vous dire que quand on n'a qu'une minute, vous savez de quoi je parle, et ben on n'a qu'une minute, donc il faut écrire tout. Et que voilà, moi je trouve qu'effectivement c'est un vrai sujet, un vrai sujet d'abord par la perte du français, la pratique du français ici, ça c'est clair. Hein. Est-ce qu'après il y a un appauvrissement de la langue? Moi d'un autre côté, je reste toujours totalement médusée et fascinée par le fait que la plupart quand même des conférences de presse, points, etc., sont traduits en direct de façon remarquable. Ça, j'avoue que ça c'est quelque chose qui doit rester parce qu'effectivement, moi ça me paraît inimaginable de toute façon qu'un jour il n'y ait pas toutes ces langues parlées au quotidien. Et tous ces traducteurs, ne serait-ce que parce que sur les textes législatifs, il y a des formules juridiques qui existent dans des langues et jamais la formule en anglais résumera les subtilités des langues par pays. Donc de toute façon, ça reste extrêmement important, et notamment sur les sujets de fond, quand on va chercher des documents dans notre langue, parfois qu'on récupère 2 ou 3 jours après une intervention, mais moi je le fais toujours parce qu'effectivement la traduction que j'ai chopée moi-même, ben finalement le travail des traducteurs qui a été fait au sein de la commission ou du Parlement m'apporte une précision supplémentaire qui, la fois d'après, quand le texte reviendra sur le tapis, au moins aura été correctement traduit.
Merci beaucoup pour cette reconnaissance du travail de nos cousins interprètes, mais il y a aussi bien entendu la production écrite. N'hésitez pas à faire appel à moi si on peut vous aider dans ce travail lexical et autres. Et puis une dernière question, parce qu'on a déjà, et je vais vous rendre votre liberté, mais pas avant que vous ayez, si possible, commenté, là aussi, une déclaration de l'Association européenne des journalistes de France, qui protestait contre le licenciement, fin juillet, du rédacteur en chef du site index.hu, donc un site médiatique hongrois, avec la démission de tous les journalistes qui travaillaient pour cette plateforme, extrêmement connue et extrêmement respectée. Est-ce que vous avez un commentaire là-dessus? C'est-à-dire la situation des médias.
La situation des médias, si on est dans l'actualité aujourd'hui, l'état de droit qui doit être diffusé dans 1 heure, mais de fait, il y a un vrai sujet dans certains pays comme la Hongrie sur le fait que la presse a été complètement muselée. Et aujourd'hui, ce type de démission collective, effectivement, doit être médiatisé parce qu'il faut soutenir absolument la liberté de la presse dans ces pays-là. Et je dirais que c'est au cœur des valeurs européennes, la justice, la presse, la lutte contre la corruption au même niveau. C'est ce que va dénoncer d'ailleurs ce rapport sur l'état de droit. Et l'idée d'introduire aujourd'hui une conditionnalité de distribution de fonds européens au respect de l'état de droit auprès des pays membres pour qu'ils puissent, enfin, pour leur tordre le bras, entre guillemets, c'est-à-dire qu'en gros, on vous aide à vous développer à condition que les valeurs de l'Union européenne soient respectées, me semble absolument majeur. Signe dès demain toute tribune qui aujourd'hui soutiendrait des confrères dans des pays membres de l'Union et ailleurs, mais c'est d'autant plus choquant quand on est membre de l'Union et qu'on adhère à certaines valeurs de voir que des journalistes ne puissent plus aujourd'hui faire leur travail en toute liberté.
Merci Angélique Bouin. On reste en contact, si vous le voulez bien. Merci beaucoup de ce témoignage. Bon courage, beaucoup de choses se passent actuellement et on a besoin de décodeurs.
Merci
Au
à
revoir.
vous.
Merci. Au revoir.